Allez, c'est 19h, c'est l'heure du magazine consacré à la bande dessinée, c'est l'heure de la bulle coincée, c'est parti, générique.
Bonjour, bonjour. Mais qui est ce petit personnage ?
Vous êtes qui vous donc, pour vous cacher dans les broussailles là ? De me faire pourrir par un autre zombie puant. Mes amis, il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, la musique.
Et voilà, c'était Immonde. Bienvenue sur la bulle coincée 92.2 de la bande FM. Il est 19h, passé de quelques minutes. C'est l'heure du magazine consacré à la bande dessinée. Ce soir, un programme plus qu'alléchant, ma foi, puisque nous allons parler de plein de bandes dessinées de bonne qualité. Et nous aurons, grande première pour la bulle coincée, un auteur en interview. Et pour ce faire, nous avons appelé en renfort le professeur Pix. Bonsoir.
Salut.
Et cet auteur, ce sera Gabriel Ferro, auteur, entre autres, de Manga Boys 1, 1,5, 2, 2,5, 2,3, etc.
Non, de tous.
De tous. Donc ce sera plutôt vers 19h30 et en attendant, bien sûr, on vous présentera donc plusieurs bandes dessinées avec le professeur Johan qui ne va pas tarder normalement si tout va bien, si les métros veulent bien fonctionner normalement en cette fin de juillet. Voilà, on est bien content de vous retrouver après cette petite pause d'une semaine. Allez, on commence tout de suite avec une première bande dessinée qui nous vient tout droit des éditions Cambourakis, maison d'édition parisienne. Ça s'appelle Triste Cendre, c'est une bande dessinée qui est parue cette année. C'est un petit format typique pour une nouvelle graphique, on pourrait dire. Ça fait vraiment bouquin en fait, avec une couverture souple, c'est imprimé en bichromie noir et bleu, c'est très 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 joli, c'est plein de textes avec différentes typos. Il y a un petit côté machine à écrire souvent, dans les phylactères sont plus du comics en MS, mais les textes de résumé de l'histoire sont plutôt en typographie journalistique des années 30-40, et se faire pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça nous parle de la guerre d'Espagne, cette période trouble. Alors en fait... On va commencer par le début. C'est une bande dessinée qui est de deux auteurs espagnols. Le dessinateur, c'est Iñaket, originaire de Bilbao, qui travaille depuis 1995 dans l'illustration et l'animation pour la télé et le cinéma. Il a travaillé pendant 3 ans au studio Mariscal à Barcelone. Il a réalisé un album de bande dessinée pour enfants intitulé The Tokis. Et c'est sa première collaboration avec ce scénariste qui s'appelle Mikel Begoña, qui est lui aussi originaire de Bilbao. Il écrit entre 2004 et 2008 des scénarios pour l'illustrateur argentin Ricardo Sendra. Il a obtenu pour ces derniers divers prix tels que le prix Cocoé, organisé par la municipalité d'Elgoibar en 2005, et le prix Ganorabaco, et oui c'est pas facile à dire, ça doit être du basque, attribué par la municipalité de Basauri en 2006. Et en 2007, à l'occasion du 70e anniversaire de la bataille de Machichaco, encore du basque, il a publié à compte d'auteur Mar des Plomos en castillan et en basque. Cette œuvre lui a permis de conjuguer ses deux passions, la bande dessinée et l'histoire. Il collabore avec l'illustrateur basque Inaket depuis 2008. Et alors, du coup, de quoi ça parle cet album? Eh bien, en fait, ça revient sur les débuts du célèbre photographe Robert Capa. Robert Capa, vous en avez très très certainement déjà entendu parler, c'est un photographe hyper connu, une grande pointure de la photographie, notamment la photographie de guerre. C'est celui, vous savez, qui a pris cette photo fameuse du républicain courant au front et fauché par une balle qui tombe à la renverse. Ce qui a été pour Robert Capa l'occasion de dire que si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez prêt. Voilà, et donc sous forme d'entretien avec son dentiste, Capa raconte sa guerre d'Espagne qui commence en 1932 pour lui quand Capa est jeune et amoureux de Gerda Taro. Ils sont à Paris, ces deux photographes jeunes qui fréquentent les cafés d'artistes. Antifascistes, ils prennent la décision de partir rejoindre les brigades internationales à Barcelone. Cette décision qui est prise un peu avec l'insouciance et le romantisme de ceux qui défendent leurs idéaux, va transformer leur vie à tous les deux. Enfin bon, la guerre civile espagnole va transformer la vie de beaucoup de gens, des volontaires comme eux qui se retrouvent plongés dans la violence des combats. Alors c'est là que c'est intéressant la façon dont le récit est mené, parce qu'il y a un cheminement à travers des anecdotes qui nous posent vraiment les acteurs en présence dans le conflit. Au milieu du formidable engouement qu'a suscité les brigades internationales avec ses volontaires de tous les pays, on pourra d'ailleurs croiser dans l'album des célébrités comme Antoine de Saint-Exupéry, Hemingway ou même Corto Maltese qui fait une courte apparition. Et pas George Orwell, tiens, c'est vrai qu'il n'y a pas George Orwell, bizarrement. Et puis la guerre qui rattrape la réalité et sape l'enthousiasme de défendre un idéal, la mort qui vient culpabiliser les survivants, et l'absurdité des conflits plus internes, des magouilles d'intérêts, les guerres de clochers entre partisans. Mais tout ça en fait n'est pas vraiment traité dans Triste Cendre, parce que il est surtout question de la joie et de la légèreté, et notamment à travers Capa qui prend le pas sur toute l'histoire, quoi. Bon, il faut noter quand même le gros de l'action au front se déroule à Bilbao. Alors, ville d'origine des deux auteurs, comme on l'a dit, Inaket et Mikel Begoña. Bilbao, ce sera farouchement défendu par toute une troupe de brigands basques de la pire espèce et approvisionnés par des contrebandiers notoires. Et toute la région de Bilbao fut un des lieux les plus meurtriers de la guerre civile espagnole, en fait, avec la bataille de Sollube, qui fit des milliers de morts. Et qui fut finalement perdu puisque Bilbao tomba aux mains des franquistes. C'est sur cet immense gâchis que Capa construit sa légende, qui lui laisse un goût amer dans la bouche. On le retrouve un peu après la guerre d'Espagne au Mexique, où il a fui tant bien que mal avec beaucoup d'autres après la prise de l'Europe par les nazis et les juntes fascistes. Il est dérouté, sévèrement alcoolique, mais il poursuit son œuvre et deviendra le photographe de référence que tout le monde connaît. La mise en page donc dans l'album reprend ses cadrages très célèbres, ce qui nous montre un peu son travail et en même temps dynamise vachement la lecture du livre. On n'est pas dans l'autoréférencement, quoi. On est vraiment dans l'œuvre dédiée à quelqu'un, mais ce quelqu'un c'est plus la guerre d'Espagne que Robert Capa. Et à travers la guerre d'Espagne, c'est aussi Bilbao. Triste Cendre, c'est une réflexion des combattants qui sont sous le feu pendant la bataille de Sollube, où pendant des jours et des jours, ils ont tout brûle autour d'eux, ils ont un goût de cendre en permanence dans la bouche, quoi. Bon, la narration est un peu décousu. Parfois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, tant les idées fusent un peu de tous les côtés. Mais bon, ça reste une très très bonne nouvelle graphique. C'est bon, c'est surtout que ça traite d'un sujet déjà moult fois vu et revu, la guerre d'Espagne. Et pourtant, prendre ce point de vue du photographe de guerre au début, jeune idéaliste qui deviendra cette légende désabusée, c'est vraiment une très très bonne idée pour traiter d'un sujet. Alors en plus, ça ajoute la touche romantique des brigades internationales assez intéressante, quoi. Donc c'est très bon, c'est Triste Sand, c'est aux éditions Cambourakis, c'est dans toutes les librairies. Et puis l'album s'arrête au moment où Capa en fait est au Mexique et il continuera sa carrière aux États-Unis, notamment il va inspirer d'autres photographes pour qui fonderont ensuite l'agence Capa, parce que Capa lui il va continuer à faire de la photo de guerre, hein, bien sûr, il va même faire la Deuxième Guerre mondiale et au sortir de ce conflit il dira en tant que reporter de guerre, je serais content d'être au chômage pour le restant de mes jours. Et pourtant, pendant la guerre du Vietnam, celle menée par les États-Unis contre le Vietnam du Nord, dans les années 60 et 70, eh bien, il rembrera pour recommencer à faire des photos et il trouvera la mort dans ce conflit au Vietnam, donc dans une embuscade au fin fond de la jungle. Voilà, eh bien, je vous propose une première petite pause musicale pour ensuite passer à l'album qui est chroniqué par notre ami Johan qui vient d'arriver. Bonsoir Johan.
Bonsoir, écoute, je viens d'arriver, mais je vous écoutais quand même. Hein.
Très
j'ai,
bien.
J'ai la radio sur mon téléphone, je vous écoutais, je t'ai écouté lancer ton émission et la plus grande partie de ta critique. Donc voilà.
Mais comme des millions d'autres personnes. Allez, première pause musicale et ce sera un petit Ninja Tune. Je vous laisse découvrir ça. On se retrouve tout de suite après.
Ok.
Don't respect the sister, walk around like a womanish. She won't speak unless it's something worth saying. Don't play the girl, take herself so seriously. People stare curiously. She got a natural way, her hips sway furiously. Little luxuriously. Carries herself like the cutest, most prettiest thing you've seen this side of the bay. Go about her business so purposeful that she got razor sharp wit and she just won't quit. Flaunting it, body built like a house made out of brick. She got the smile, the style, and finesse compounded with a blessed, profound intellect. Select few have ever seen her butt naked, and they too wanna see the rep protected. 'Cause she don't like violence, but she can turn them things, so don't let your guard down. The prize is all, but her eyes are all. Walker, Nikki Giovanni, or honey. Says she wanna be a doctor, and not for some damn short. She could be digging somebody. School streets, smart girl, ain't no dummy. One economic empowerment, and it ain't about the money. The boys and gals both all start act funny whenever the queen's coming around. Yeah.
Sweet, sour, blood and rum. Out of sight, dynamite. With a freaking shot that you can't quite see, but she can't quite know. And it lies in the gentle command of the night. Wherever you took my head, baby, send it home. Send it on home. I really think I lost my head, 'cause it's females on the whole new throne. All the clerks wanna offer you help, all the folks compliment your style, yeah. Our little children wanna jump in your lap. Girl, I wanna do that myself. She ain't no innocent, never kidding shit. She's committed sins and ain't finishing. But because of her disposition, she ain't subject to criticism. That's why the other women started mimicking. She ain't tripping off no images. Her interests are all limitless. She ain't limited by inhibitions, Lord. Boundless imagination. She bounced this idea off me, Jack. That had me out in space, somewhere just floating, not knowing the way back. You know I can't always fathom everything that you say about half the time. But when I hear your voice, you support your voice. With all of that body language, girl, it's alright. It's alright. It's alright, yeah. I look right in your eyes, ask how'd you get so neat.
How'd you get so neat?
I just when I think I know your stand, I know there's something I ain't be.
No women, no silent treatment, girl. In the middle, she's trying to say.
Vous êtes toujours sur La Bulle Coincée, c'est le magazine consacré à la bande dessinée, c'est Canal Sud, et nous sommes en direct avec le professeur Johan qui va tout de suite nous parler de sa bande dessinée. Johan me fait des gestes.
Oui, oui non, c'est juste que t'as très mal mis ton casque, ça te fait les oreilles de Mickey avec tes cheveux, ça fait très bizarre.
Comment il balance.
Aujourd'hui, c'est le jour pour balancer. Alors, on va parler.
Profites-en, vas-y.
Alors, on va parler d'un petit comics que tu m'as passé très gentiment. Soldier Zero, ça s'appelle. Alors, c'est un comics de l'éditeur américain Boom Studio, qui est sorti en France aux éditions Emmanuel Proust. Alors, avant de commencer, donc ce comics a été lancé en même temps que deux autres séries. Hein. Donc, en un mot, c'est un triptyque, en quelque sorte, de comics qui vont sortir. Les trois nouveaux héros qu'il présente ont été labellés sous le sigle Stan Lee Présente. Alors, la légende vivante du comics ayant participé au développement du projet, voilà, quoi, c'est grand. C'est grande nouvelle, hein, sauf qu'en fait, non. Le maître, il a fait que chapeauter le projet dans son ensemble, il n'a pas initié ou designé les héros, juste été de son propre aveu un simple consultant. Alors c'est une déception assez amère hein, pour les fans des héros qu'il a créés. Bon, certes, ses univers et personnages sont assez machos, bon, parfois certains ont mal vieilli, mais il faut l'avouer que la plupart d'entre eux en fait sont devenus des plus importantes icônes de la scène comics internationale, il faut l'avouer.
Et tu pourrais en rappeler quelques-uns peut-être ?
Ben, par exemple, tout simplement Spider-Man, les X-Men... Iron Man aussi.
Ouais,
en fait,
du lourd.
Bah en fait, vous voyez, a priori, tous les films de Marvel ces dernières années, on voit toujours Stan Lee qui apparaît. Il y a toujours un petit
vieux
qui...
Il fait des caméos dans, dans les films de ses héros.
Voilà. D'ailleurs, le seul où il apparaît pas dernièrement, c'est le dernier X-Men. Hein, First Class. Il apparaît pas. Bref.
Il a fait pas mal de scénarios avec Jack Kirby aussi pour les 4 Fantastiques, Thor.
Voilà,
il avait contribué à les créer aussi.
Voilà, c'est on va dire le papa quasi-majeur.
Omniprésent.
Dans l'univers Marvel particulièrement.
D'accord.
Alors voilà, le vieux bonhomme, ça fait un petit moment qu'il ne crée plus de héros aussi flamboyants. Hein. Son dernier coup d'éclat, c'était Ultimo, ce manga qu'il a fabriqué avec le créateur de la série Shaman King, qui a eu un certain succès à ses débuts. Mm-hmm. Donc bon, le manga, je le critiquerai peut-être un autre jour, mais bon, pour l'instant, on va dire qu'il a fait vraiment plus créer de héros aussi flamboyants que ce qu'il avait fait avant. Alors, trois d'un coup, quelle nouvelle pour les fans, quoi, non ? Ben, on va dire qu'en gros, c'était vraiment une grosse déception, donc ça a jeté un sérieux voile amer sur ma critique. Donc, après l'avoir su, j'ai décidé de prendre 2 semaines. Je me suis posé tranquillement.
2 semaines de repos.
Voilà, 2 semaines de repos loin de la BD. Et puis, je l'ai relu, histoire de me dire, bon, ben, voilà, je suis frais, ça va pas, on va dire, entacher ma critique. Et donc, voilà, donc, en un mot, la fameuse critique que j'ai faite là. Bon, alors, déjà, c'est scénarisé par Paul Cornell. Alors, c'est un scénariste connu pour avoir travaillé sur la série de Doctor Who, sur d'autres séries aussi anglaises. Hein. Il a travaillé, par exemple, sur le remake de Robin Hood qui a eu lieu dernièrement.
Et au cinéma, tu veux dire ?
Non, la série anglaise, il y a une série Robin Hood qui a été refaite dernièrement.
D'accord, et Doctor Who, c'est la série aussi ?
Doctor Who, la série. Il a participé aussi aux comics de Doctor Who.
D'accord.
Et il a fait aussi, si je me rappelle bien, voilà, il a participé aussi à des scénarios sur la série Primeval. En France, c'était Nick Cutter et les Portes Temporelles. Voilà. Donc, c'est quand même quelqu'un assez connu. Il a fait aussi des comics comme Dark Reign, Young Avenger, le tome 5, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un. Après, ça a été illustré par Javier Pina et Sergio Arrigno. Donc voilà, c'est quand même du beau monde. Ces deux personnes ont bossé sur d'autres tomes, genre du Superman et aussi de Miss Marvel pour ce qui est de Arrigno. Donc c'est quand même du beau monde, quoi. Enfin, du moins, pas des débutants. Alors bon, alors l'histoire de Soldier Zero, c'est relativement simple. Hein. Ça commence avec Stewart Trotman. Alors, c'est un ancien soldat revenu de la guerre... de la guerre d'Afghanistan paraplégique, hein, faut l'avouer, il est revenu en fauteuil roulant, et il s'est reconverti en professeur d'astrophysique à l'université. Donc voilà, enfin, assistant d'un professeur. Voilà. Donc voilà, c'est un petit job en plus. Donc lors d'une fête sur les toits de la fac, qui est organisée pour cause de pluie de météorites, hein, donc tous les jeunes, bien sûr, vont utiliser ça pour aller s'arsouiller un peu la figure et tout, avec coup de bière, comme tous les jeunes de fac. Donc, il est obligé, donc lui, alors que c'est pas sur un toit d'un immeuble, et sur un autre immeuble, parce que... Bah, celui où se passe la fête, il n'y a pas d'ascenseur, il ne peut pas y aller. Donc il se retrouve un peu tout seul et tout, il y a sa copine qui vient, donc bon, ça c'est un peu les détails, des trucs comme ça.
C'est romantique.
Ouais, mais bon, c'est très peu abordable. Finalement, c'est pas vraiment très très utile dans l'histoire, alors je vais un peu passer dessus. On va aller au plus important, au même instant dans l'atmosphère, hein,
l'autre bout du monde.
Pendant ce temps-là, quelque chose comme 36 000 km au-dessus de leur tête. Hein.
Et quand même.
Et ben, au même moment, comme on pourrait dire quelque part, dans l'espace, il y a un combat qui fait rage et une sorte de héros bizarre en armure d'argent et rouge chute dans l'atmosphère et va faire une rencontre, ma foi, assez brutale avec l'immeuble de Stewart. Hein. Donc là, le militaire survit au cataclysme qui en suit, hein, déjà, voilà. Et il rencontrera donc Soldier Zero. C'est une sorte de super soldat de l'espace, hein, un symbiote armure qui se fixe sur d'autres formes de vie pour combattre. Donc en un mot, et donc l'armure étant endommagée, l'hôte qu'il avait précédemment étant mort, l'armure se fixera sur Stewart pendant toutes les périodes où elle sera active. Elle redonnera à Stewart la possibilité de marcher. Mais attention, elle n'est pas venue seule sur Terre. Il y a aussi une méchante armure qui l'a suivie. Donc voilà, ça c'est le pitch de départ. Donc, alors autant que dire de ce comics, ben perso, je dirais bof. C'est pas mauvais, c'est pas transcendant non plus, mais c'est convenu. Sincèrement, c'est très convenu. Le héros, c'est pas très poussé. Le héros est paraplégique, ça pourrait donner quelque chose dessus. Mais non, ça reste en surface. Le héros, il a l'air de s'en foutre d'être paraplégique alors qu'il vient pas de revenir de la guerre. Il s'en fout aussi de pouvoir remarcher vaguement. Il y a juste un je marche. Et puis limite son frère a l'air plus dedans, elle a l'air plus intéressé, plus.
Son frère, il est pas net aussi.
Ouais, hein, son frère est bizarre.
Il y a un
truc d'inceste bizarre derrière quoi. Bref, on va pas.
Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui est pas net avec son frangin. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure.
Voilà, le frangin deviendra. Je l'ai pas lu, mais je parie que dans le tome 2, le frangin deviendra l'hôte du méchant. Ou un truc dans ce genre, donc bon, mais je le parie, ça sent tellement le convenu que c'est gros comme une maison que ça va devenir un truc dans le genre. Donc bon, quoi qu'il en soit, l'extraterrestre le prévient, en plus à un moment dans le truc c'est attention, si j'en fais trop, je devrais puiser de l'énergie dans ton esprit et ça te fera perdre la mémoire. Puis le héros, bah, il s'en fout, il écoute pas, il fait ok d'accord, puis voilà c'est tout. Et moi tu fais non mais je sais pas, voilà, pas de trauma ni rien, on m'efface mes souvenirs, j'ai 32 ans, j'ai rien. Le mec il fait se passer 2 ans de sa vie, m'en fous, putain, ça me manque pas, je les ai perdus. Donc ouais, ok. Donc l'armure déjà elle est louche, hein. Donc voilà, donc, un peu ce côté-ci déjà un peu. Le méchant, parce que le méchant elle arrive, hein, déjà le méchant il est tout noir, il est designé comme un méchant, c'est-à-dire que il a des arêtes bizarres, ses yeux ils sont des yeux de méchant, son armure elle est toute noire, il a des crevasses dans son armure, il porte pas de slip, on l'a fait remarquer tout à l'heure entre nous, c'est que le héros il a une sorte de slip métallique, le méchant non il a juste une espèce de peau rouge au niveau du truc, donc voilà.
Et ça trompe voilà, pas quoi.
C'est un méchant exhibitionniste, donc alien, donc forcément c'est pas un gentil. Et en plus, il fait des méchancetés, hein. Genre vas-y que je tire sur des civils, je tue un flic, je kidnappe ta copine, le héros. Et puis, un moment, il va me faire un truc que j'ai trouvé complètement ridicule, c'est qu'il dit au héros, haha, en fait, c'est ton armure, le méchant, et que c'est un traître. Alors, tiens à rappeler, hein, il a tué un flic, il a tiré sur des civils, il a blessé plein de gens, et il a kidnappé la copine du héros après l'avoir poursuivi pendant je sais pas combien de temps.
Et il continue à la ramener, quoi.
Et dans ça, et il dit au héros, c'est ton armure qui est la méchante, et le héros, il la croit.
Ah oui.
Voilà, donc bon, je ne vais pas dire quand même que. Je vais pas dire que.
C'est les militaires, hein, c'est comme ça.
Voilà, ouais. J'ai pas envie de dire moi les méchancetés sur les militaires comme Sullivan, mais on va dire qu'à mon avis, il n'y a pas eu que des traumas au niveau de sa colonne vertébrale, hein, avec après l'accident en Irak. Hein, enfin, voilà, donc bon, c'est toujours pour dire ça. Donc bon, bref, tout ça, c'est du super convenu, ça semble réchauffer. Le scénario, c'est pas poussé, pas travaillé. Cornell, il nous a amené à beaucoup mieux quand même, il n'est pas du tout au milieu de sa forme. Hein. Alors le dessin, c'est pas supra transcendant, c'est pas mauvais, loin de là. C'est un style un peu réaliste qu'on utilise en ce moment. Le problème, c'est que ça ressemble beaucoup justement à tout ce qu'il fait en ce moment. Et les couleurs redonnent un petit côté un peu plastique Barbie Ken au personnage. Donc voilà quoi, bon, on n'a rien sans rien. Hein. Donc Soldier Zero, c'est ça, c'est une histoire un peu aseptisée, c'est pas très travaillé, des clichés à l'appel, des personnages peu profonds. Bref, ce comics est une certaine déception. Je crois qu'on l'a entendu à ma critique. Peut-être que l'histoire se rattrapera-t-elle hein, par la suite, je l'espère, même si j'avoue que j'en doute un peu. Mais en attendant, c'est vraiment pas à l'auteur l'espérance donnée par l'annonce du label Stan Lee présente. Bon, on s'en doutait, cette campagne de pub, c'était surtout une campagne de pub pour faire vendre les comics, mais ça pouvait très bien être à double tranchant, et là c'est le cas. Soldier Zero, c'est une déception, c'est pas à la hauteur de ce que Stan Lee nous a attendu, donc qu'il ait posé sa signature dessus, voilà, je trouve ça un peu médiocre. Donc, quelque part, en même temps, comme j'ai dit, il y a trois comics. Là, on est le premier, Soldier Zero. Pour moi, en tout cas, ça a été une déception. Mais les deux autres ont l'air, en tout cas, de meilleure facture. Donc, j'espère qu'ils seront largement mieux, qu'ils relèveront le niveau. Ça m'étonnerait. Donc, d'ici là, écoute, on croise les doigts et on verra quand on le saura plus.
À suivre, donc.
Voilà.
Bon, il vient l'heure tourne. Qu'est-ce que je vais enchaîner sur une chronique assez courte.
Ah, Sullivan s'éloigne.
Une chronique un peu courte dont je voulais vous faire part, il s'agit de Svoboda. Svoboda qui est une grande bande dessinée de 23 cm par 33. Svoboda, ça veut dire liberté en tchèque.
Merci.
D'un culte.
Tu savais peut-être avant de dire la BD. Merci.
C'est paru donc chez Futuropolis en juin 2011 et c'est le tome 1 d'une série et c'est plutôt emballant. C'est ça raconte en fait l'histoire de l'exil, enfin on va dire l'odyssée plutôt de l'armée tchèque pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, rappel de quelques faits historiques. Russie en 1918. Issue des armées austro-hongroises mais de nationalité tchèque et slovaque, 70 000 soldats profitent de la révolution russe pour fuir les camps de prisonniers tsaristes. Leur but, rejoindre les troupes alliées, donc français, anglais, Italie et États-Unis, sur le front de l'Ouest afin d'obtenir à terme la création d'une république tchécoslovaque. Le seul moyen, en fait, de parvenir à rejoindre les troupes alliées, c'était de s'emparer du Transsibérien, donc je rappelle qu'ils sont à proximité un peu en dessous de Kiev, Moscou, par là-bas. Ils vont donc essayer de s'emparer, et ils vont y arriver, du Transsibérien pour rejoindre le port de Vladivostok, qui est donc au large du Japon, d'où ils comptent s'embarquer sur la côte pacifique, pour la côte pacifique des États-Unis, et de là rejoindre l'Europe. Donc, enfin, ils avaient prévu, en gros, à peu près, allez, ils s'étaient dit 2 mois, et finalement, ça a duré 3 ans quand même. Une aventure incroyable, une nation en marche, au sens propre, comme au figuré, avec au bout de la voie un cri de guerre qui deviendra réalité, Svoboda, qui veut dire donc liberté. Et là où c'est plutôt sympa, la façon dont a traité le sujet les auteurs, c'est que c'est à la fois un récit, donc tout ce qu'il y a de plus historique, et en même temps une épopée complètement romanesque, puisque c'est écrit comme le carnet de guerre imaginaire d'un combattant, qui n'a pas existé en fait. C'est un résumé, non, parce qu'en fait ils prennent vraiment vraiment le temps, c'est pas du tout un résumé, mais on est propulsé comme ça dans le réel et le quotidien de cette armée tchèque, qui a au début attend depuis 3 semaines dans une gare en voyant passer les trains et en attendant le leur, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Et alors en plus ils utilisent le principe de narration un peu du flashback, puisque ça commence en réalité donc en automne 38, 20 ans après les faits qui nous seront relatés, où on voit Joseph Cerny qui a le surnom de Pepa, un professeur juif d'art plastique qui apprend les accords de Munich. Donc il se sent trahi par la France, sa mère est terre d'adoption et il imagine sans peine les conséquences dramatiques de cette décision politique, conséquences qu'on connaît aujourd'hui. À commencer donc par la mort de son pays, la Tchécoslovaquie, la République tchécoslovaque pour laquelle il s'est battu 20 ans auparavant, contribuant à faire avancer son rêve. Et il ressort du coup ses vieux croquis et il commence à raconter. Il va raconter pour ça l'histoire en fait de son ami Yaroslav, qui est une espèce de Corto Maltese mais en plus turbulent, qui est poète à 16 heures, en tout cas vraiment ce qu'on pourrait appeler carrément une grande gueule dans l'armée tchèque, et qui va ruer un peu dans les brancards de tout ce qui passe, depuis les commissaires politiques rigides du parti communiste naissant, et aux Hongrois de l'armée tsariste en déroute. Voilà, et donc c'est un premier tome qui s'achève en plus sur une histoire, un espèce de hangover qui laisse pressentir toute la dimension épique effectivement que va prendre leur retraite. Alors à noter quand même que pendant 2 ans, la plupart des batailles qui vont jalonner tout leur parcours, c'est une suite d'abordages de trains le long des lignes du Transsibérien. Ça ressemble plus à une espèce de d'épopée pirate qu'à une guerre classique, quoi. Et ils remportent en fait la seule bataille navale de l'histoire tchèque. Bah et pour cause, il n'y a pas de mer en Tchéquie. En écrasant les vedettes bolcheviques sur le lac Baïkal, à l'aide de péniches sur lesquelles ils avaient préalablement hissé des wagons d'artillerie. Voilà, donc une histoire vraiment épique qui laisse présumer encore une fois de la qualité des albums de chez Futuropolis. Alors 2 mots quand même sur les auteurs, puisque c'est pas n'importe qui on a affaire. Il s'agit de Chris, le scénariste quand même de Un homme est mort, avec Étienne Davodeau, une excellente bande dessinée sur une espèce de reportage d'après-guerre des ouvriers d'usine qui mettent en scène ce poème fameux de Paul Éluard qui est absolument fantastique. Il a écrit aussi Coupure irlandaise avec Vincent Bailly, Les ensembles contraires avec la participation au scénario d'Éric Té et de Nico Bi au dessin, et plus récemment l'adaptation de Un sac de billes de Joseph Joffo avec Vincent Bailly. Et aussi Notre mère la guerre quand même, ah oui, non, que des grosses BD quoi. Et au dessin, il s'agit aussi, bon, entre autres, parce qu'il y en a pas mal, donc Jean-Denis Pendanx, qui a fait avec Christophe Dabitch Abdallahi, qui est aussi aux éditions Futuropolis, qui est une excellente BD en deux volumes que je vous conseille chaudement. Et ce monsieur, bah tiens, on revient encore au Maltese, puisqu'il a participé au dessin animé de ce même héros. Voilà, c'est donc Svoboda, c'est paru chez Futuropolis au début du mois de juin. C'est le volume 1, je vous conseille de vous jeter dedans, c'est super intéressant. Eh bien, donc l'heure tourne et on va enchaîner avec une pause musicale. Et normalement, après, on devrait se retrouver avec notre auteur de Manga Boys, Gabriel Ferro. On se retrouve tout de suite après No One Is Innocent avec une chanson intitulée « Ne reste-t-il que la guerre pour tuer le silence ?»
Do I scream for nothing? Do you hear my voice in the rest of brain? Record is playing, listen what I'm saying. But do you really care for the message? I'm telling radio, TV, paper is lies. Too many ears for one cry. Critic on paper, right in my mind. Do you really give a fuck about what I'm telling you? Your article speak to the masses. People read my name. It doesn't matter that I came here to speak to ya. You use my name. If you don't write what I told ya, then you sell me as propaganda. Now the silence that controls us is getting louder and poisonous. So what? Ne reste-t-il que la guerre pour tuer le silence?
Vous êtes toujours sur Canal Sud, la radio qui laisse les chansons jusqu'à la fin. Nous sommes dans La Bulle Coincée, émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux de rôle et aux univers fantastiques. Et nous sommes avec Gabriel Ferraud. Gabriel ?
Bonsoir.
Alors, nous sommes avec Pix et Johan.
Bonsoir Gabriel.
Bonsoir.
Et donc, Gabriel, tu as bien voulu nous faire l'honneur de participer à cette émission parce que tu es l'auteur de Manga Boys.
En effet, Manga Boys.
Entre autres. Et est-ce que, peut-être que tu as envie de présenter un petit peu l'univers ?
Oh bah oui, donc Manga Boys, donc, c'est un jeu de rôle. Et l'univers qui a été créé pour ce jeu de rôle est donc, on va dire, pour faire simple, un univers science-fiction post-apocalyptique dans le sens où il y a eu une invasion extraterrestre et les terriens doivent réagir à cette invasion. Alors après, évidemment, c'est un thème qu'on peut dire rebattu. L'intérêt était de présenter un univers plutôt fun, de manière, d'un point de vue jeu de rôle, à accéder très rapidement à un JDR, que l'on soit un débutant ou pas, et ensuite qu'on ait des parties plutôt sympas qui permettent de se mettre très rapidement dans l'ambiance.
D'accord. Et effectivement, on voit que c'est bien rythmé, c'est bien... Il y a une inspiration bien cinéma, quoi.
Oui, j'ai voulu faire un univers assez cinématique, de manière à ce qu'on puisse faire des choses assez fluides, que les joueurs et donc les personnages ne soient pas bridés dans leur imagination, puis aussi dans les actions qu'ils veulent faire. C'est vraiment des héros. Le système de jeu est prévu pour que ce soit des héros, par rapport à la plupart des adversaires ou des autres qui vont rencontrer leur sont très largement inférieurs si jamais on a un conflit. Et ça permet justement, quand on sait que son personnage ne va pas tomber au moins nos premiers problèmes, les joueurs du coup peuvent faire des grandes actions, peuvent faire quelque chose de véritablement cinématique. C'est ce que je voulais rechercher à travers Manga Boys.
On le voit bien à travers les titres des chapitres ou à travers les petites références, notamment au tout début du troisième tome sur les... à Cancun je me rappelle plus Waterworld, le ghetto de Cancun voilà.
C'est sur Cancun, Waterworld avec Kevin Costner.
Voilà, le navet infâme de Kevin Costner. aussi, comme tu parlais des méchants inférieurs, c'est vrai que t'as fait un système avec des minables, qui sont vraiment les monstres pourris à souhait que les héros et héroïnes de Manga Boys désinguent en 2-3 coups de flingue. Au contraire, des affreux qui ont des pouvoirs plus que redoutables. Tout ça tourne absolument bien. C'est vrai.
Oui, ça s'inspire de plusieurs types de choses. Comme on peut voir, on le voit plus par exemple dans les films Hong Kong ou autres, en général, il y a une pléthore de petits sbires qui sont vite à dégommer, mais les boss et le boss du boss et le boss sont de plus en plus dangereux. On le voit aussi avec les jeux vidéo. Système à niveau comme ça, le boss de fin de niveau est toujours plus dangereux ou autre. Et puis il y avait d'anciens jeux de rôle où on avait aussi ce principe-là, comme Bitume, qui était sorti aux éditions Cirrose, où beaucoup de petits PNJ, effectivement, dès qu'on tirait dedans, ils faisaient un jeu de résistance, s'ils ne résistaient pas, c'était fini. Par contre, les vrais héros étaient beaucoup plus costauds.
Moi, j'ai juste quelque chose à demander. Faut savoir que Manga Boys, mes deux collaborateurs ont été très gentils. Ils viennent me le refiler genre demi-heure avant le début de l'émission. J'ai vu juste voir un peu l'univers, truc comme ça. Ça a l'air très sympathique. J'étais moi-même un master à Bitume. Alors, je vois un peu le genre de truc que tu veux dire. Par contre, le problème que je voyais un peu, c'est juste de demander, est-ce que ça limite pas un peu le RP? Parce que effectivement, ça donne un petit côté. C'est vrai que c'est toujours jouissif de jouer un gros bourrin qui tape dans le tas et qui réussit à faire du kill et du frag. Mais d'un autre côté, est-ce que ça limite pas parfois un peu le côté roleplay, l'histoire des personnages, voire même les relations qu'on peut avoir et tout au niveau du jeu, quoi ?
Alors globalement, ce qui s'est développé, question roleplay, en général, le roleplay qui se fait très bien et sans problème, c'est justement au sein de l'équipe. Là, le petit côté série B, on se fait des répliques, éventuellement, quand un des personnages rate ou n'arrête pas de rater, ça peut servir aussi à des scènes d'humour et autres. Au niveau roleplay, pour les petites vannes entre équipes, ça se fait assez bien. Après, effectivement, si c'est complètement assumé, c'est pas un jeu où ça va être de longues intrigues avec des intrigues psychologiques où les personnages devaient essayer de deviner éventuellement le bon sens du vent pour voir à peu près comment l'ou voyait dans différentes intrigues. Donc ça, c'est vrai. Le Manga Boys, en soi, moi, le principe, c'était de faire un jeu où, en 2 heures, tu peux faire une bonne partie, et allez, tu peux aller jusqu'à 4 heures. Mais après, effectivement, c'est fatigant parce qu'il faut beaucoup se donner. Mais voilà, donc ça, c'est sûr que si on veut bien poser les choses, avoir des relations très importantes, c'est vrai, le Manga Boys, à la base, n'est pas prévu pour, on peut faire du roleplay, bien sûr. On peut tout à fait changer un peu l'esprit, développer les choses. On peut, alors là, dans ce cas-là, ce serait plutôt vraisemblablement pour des histoires qui se passent dans les zones qui n'ont pas encore été envahies. Ça, c'est tout à fait possible de développer. Mais prioritairement, j'ai voulu axer le côté sur fun, effectivement, un petit peu l'excès, parce que moi, ce qui m'amusait dans ce jeu, c'était de proposer, tout de suite, on peut jouer un personnage archétypal, hein, c'est vraiment un archétype, et il se lance dans l'aventure très rapidement, de manière à s'immerger assez rapidement, parce que un des soucis, tu as peut-être rencontré, si ça fait un moment que tu masterises, c'est que très souvent, avec le temps, les gens ont finalement de moins en moins de temps pour une partie.
Oui.
Donc on se dit, tiens, si je faisais un jeu où en 2 heures on peut faire une bonne partie, et ça peut être assez sympa. Après, on peut faire des choses plus dramatiques. Mais c'est vrai qu'à la base, Manga Boys, c'est surtout pour aller désinguer de l'extraterrestre en priorité.
Voilà, et au sujet du roleplay dans Manga Boys, c'est vrai que on peut désinguer l'extraterrestre, mais il y a toujours à droite et à gauche des traîtres prêts à essayer de profiter de la situation. De cette invasion extraterrestre pour leur propre profit. Il y a tout ça là-dedans, hein. Je veux dire, j'ai lu attentivement la campagne, et il y a aussi des petites choses en sous-main. Ensuite, ça fait pas de grosses campagnes psychologiques ou voilà.
Ne spoile pas, voyons, je vais le faire cette campagne.
Voilà.
Une des choses qui est en fait dans Manga Boys, c'est en fait après il y a le premier niveau de lecture, c'est effectivement ça, il y a un jeu fun,
ouais.
On démarre tout de suite, on peut s'éclater. En deuxième chose, on peut découvrir que finalement c'est toujours pareil, sur Terre, il y a toujours les humains qui vont essayer de profiter de l'un, profiter de l'autre, il y a aussi effectivement les intrigues politiques, là sans trop dévoiler, on peut comprendre que l'OTAN grosso modo organise la résistance, mais il se passe quelque chose de très louche vis-à-vis de la Russie, pourquoi son territoire même n'a-t-il pas été envahi directement? Donc il y a des intrigues comme ça. Si on est dans le Manga Boys 2 qui développe aussi la partie de la Chine, on voit que les chefs résistants chinois ne sont pas évidemment tous d'accord, ils n'ont pas la même méthode. Donc effectivement, en sous-main, il y a des réflexions, des intrigues à ce niveau-là. C'est vrai que du coup, mais c'est souvent effectivement plus en backstage. Et après, le scénario va se concentrer sur la résolution de l'intrigue. Mais il y a tout un univers assez tordu à ce niveau-là. Et encore en autre troisième lecture à ce niveau, beaucoup plus loin, il y a le côté les rapports par rapport à ce qu'on vit d'un point de vue contemporain, c'est parce que Manga Boys, en fait, la base, pour moi, le pitch à l'origine quand j'ai créé ça, c'est tout simplement, ça fait toujours rigolo à dire, mais c'était suite à la deuxième guerre d'Irak, où quand même une puissance invente un prétexte, qu'elle a pu en trouver plein d'autres. Donc les États-Unis décident qu'il y a les problèmes des armes de destruction massive et qu'il faut aller envahir l'Irak, que tout le conseil de l'ONU décide, non, c'est pas possible. Et ils font quand même la guerre. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si dans un conseil galactique, puisque c'est pareil, je dévoile pas trop l'intrigue, mais il y a le conseil galactique et une race extraterrestre décide de, tiens, les terriens font n'importe quoi avec leur planète, faisons donc une guerre préventive, envahissons la Terre. Donc après, il y a des petits messages comme ça, politiques ou écologiques. Il y a quand même Vladimir Poutine dans Manga Boys 2, et qui est quand même concerné dans Manga Boys 3. Donc l'homme qui a quand même fait une cassette vidéo diffusé partout dans le pays, on le voit en train de donner des leçons de judo.
Un cosaque d'acier à une cassette de karaté, Vladimir Poutine.
C'est pour ça que t'as rajouté un truc, parce que c'est vraiment hallucinant, et c'est complètement vrai. C'est un Manga Boys, mais c'est vrai, le type a diffusé ça. Et d'ailleurs, il a été élu, je crois, le mois dernier, par un magazine de pêche américain, l'homme le plus cool, parce qu'il adore pêcher. On est dans une société hallucinante. T'as Vladimir Poutine, t'as une photo de lui au milieu de la rivière, t'as le Robert Redford au milieu d'une rivière, et Vladimir qui pêche. Et tout va bien. Ah bah oui, tout va très bien. Pas de problème. Donc il y a des trucs comme ça. Après, je dirais que Gabriel, c'est pas un boulot politique, mais il y a quand même des trucs, il vaut mieux rire qu'en pleurer.
Effectivement.
Et puisqu'on parle de pêche, parlons un peu de la campagne. Comment on fait pour rédiger une campagne comme ça? Comment deviennent un peu les idées à ce niveau-là?
Alors, donc pour la campagne, donc pour Mangabaris 3, c'était donc en réflexion avec donc Sébastien Boudot qui s'occupe du Grimoire. On avait fait donc des Manga Boys 1.5, 2. Puis on dit donc là maintenant finalement il y a effectivement des joueurs, il y a du monde qui joue, qui en ont acheté. Donc on va essayer de leur proposer une petite évolution de l'univers, tac, pour passer à un autre stade. Et donc effectivement à partir de là, comment construire une campagne Manga Boys? Puisque moi-même j'avais jamais fait de facto une campagne Manga Boys. Comment on peut faire pour mettre en soi les idées et de manière aussi à maintenir un crescendo et que les personnages puissent respirer? Donc là aussi, quelque part c'est aussi interactif parce que ça vient des rencontres que j'ai pu faire au niveau des idées avec des joueurs dans les conventions. Donc tiens, on teste un scénario, on fait ceci, on fait cela. Et donc de fil en aiguille, une des caractéristiques souvent qui avait lieu pour un scénario Manga Boys, c'est que quand j'allais sur une convention ou autre, je faisais souvent un scénario en rapport avec le lieu géographique où on était. Donc c'est pour ça que finalement on voit que je vais souvent dans le nord ou dans l'est de la France. Parce qu'il y avait des scénarios qui se passent donc dans les Ardennes, ou à Metz, etc. Et donc on récupère comme ça des matériaux pour trouver les idées. Et ensuite, effectivement, il faut trouver le fil rouge. Qu'est-ce qui fait que des personnages comme ça peuvent suivre une histoire en 5 missions, etc. Donc après, on réfléchit. C'est vrai que c'est des personnages qui doivent faire des missions. Donc c'était aussi l'un des principes du jeu. Avec des missions, hop, ils sont rapidement lancés dans l'aventure. Donc là, effectivement, c'est une terre en résistance, une terre en guerre. Donc une des caractéristiques du soldat dans la guerre, c'est qu'en général, il n'a pas de vue globale du conflit. Il est projeté d'une mission à une autre. Et sans trop savoir pourquoi, c'est un des intérêts dans la campagne, c'est que les personnages vont faire des missions et le fil rouge ne se dégage pas tout de suite. Au fur et à mesure, ils vont finir par comprendre que leurs missions qu'ils vont réaliser vont amener à un objectif plus loin. Et ensuite, le fil rouge, pour moi, qui était important au niveau de la campagne, c'est quel est l'objectif ultime, quelle est la révélation qu'ils vont avoir. Donc je lance le truc, mais dans Manga Boys 3, ils vont enfin rencontrer justement un des envahisseurs, un des sulfériens, puisque c'était un des secrets, on va dire, de l'univers jusqu'à celui-là. Tac, ils n'ont pas encore vu, puisque ces fameux envahisseurs qui veulent sauver notre belle planète à leur profit n'envoyaient que robots, créatures génétiques à leur place. Enfin voilà, faisait la guerre propre. Pour revenir à la fameuse thématique, désormais on fait des guerres entre guillemets propres, à distance, avec du matériel. Donc voilà un peu un objectif principal. Ensuite, avec les histoires de missions et de découvrir petit à petit qu'il y a une stratégie derrière tout ça. Après, les lieux et compagnie, c'est effectivement soit sur certaines conventions, mais aussi des connaissances que je pouvais avoir ou des amis que j'avais par exemple au Mexique ou autre. Et on finit par... ce qui est intéressant dans Manga Boy, c'est de se dire... Notamment si certains d'entre vous avaient fait du bitume ou autre, c'est qu'est-ce qui me faisait amuser par exemple dans les jeux de rôle Heroes ou autre, c'est des références à des films, des références à des BD. C'est aussi pour ça que le jeu de rôle s'appelait Manga Boys, parce que moi ce que j'aimais trouver pas tant dans le manga, c'est aussi un des succès du manga, c'est qu'on y trouve tous les genres. On y trouve de tout, donc on peut vraiment tout faire. Alors après je dirais pas que Manga Boys me permet de faire n'importe quoi, mais au moins alors que je peux faire d'autres choses, là je peux me lâcher et c'est quand même toujours assez amusant d'essayer de découvrir de quelles nouvelles bestioles, comment les envahisseurs ont mal compris notre culture, la réinterprètent comme il faut pas et en font quelque chose finalement d'assez comique. Non, c'est pour ça que petit à petit, une campagne, finalement, ça peut se tenir en 5 scénarios.
Voilà, et pour avoir un substrat de règles avec la campagne qui est le tome 3, il faut quand même posséder soit le tome 1, soit le tome 2. Vu le prix d'appel à 15€, c'est tout à fait abordable, puisque un livre de base de jeu de rôle classique, c'est une quarantaine, une cinquantaine d'euros.
Ah, oui.
Chaque tome que tu as écrit, et ça c'est très bien, possède un scénario. Donc on peut tout de suite, à partir de 15€, faire son personnage et jouer en 4 heures, il n'y a pas de problème. T'as aussi fait beaucoup de scénarios, notamment dans les jeux de rôle, publié des scénarios dans les jeux de rôle magazine, et il y a beaucoup de scénarios qui sont disponibles sur le site de Manga Boys, www.mangaboys.com. Je me trompe?
Ah non, c'est très bon. De toute façon, même si on tape Manga Boys, ça arrive dans les premières.
Voilà. Et aussi, autre particularité de la gamme, c'est que chaque livre offre de nouvelles classes, de nouveaux pouvoirs pour les héros. Donc aussi, qui joue beaucoup sur les clichés. Là, dans le 3, on a le catcheur, on a le reconquistador, on a le zoulou, on a le fedakid. Tout ça ouais. Pour dire que c'est très très cliché et oui ça va dans les gros guns lance-missiles, lance-roquettes, mitrailleuses à souhait pour expulser au plus vite les extraterrestres de notre planète bleue. Donc moi j'ai fait jouer Manga Boys à plusieurs reprises. J'adore les règles parce que c'est vraiment très simple. Apprendre un JDR, c'est toujours très compliqué, c'est chiant. Et c'est le premier jeu de rôle où en fait j'ai eu le bouquin une fois et je connaissais les règles. Voilà.
L'objectif est donc atteint, ça fait toujours plaisir à entendre. C'est vrai que le truc était là. Se dire, par exemple, c'est le 2D, donc 2D de 6, mais les rôlistes, eux, ils savent qu'il y a les D de 6, les D de 10, les D de 8, les D de 20. C'est pour ça que je voulais faire un système avec des D. Autrement dit, forcément, des D à 6 faces. Voilà, que même un non-rôliste, si on lui dit bah, il faut utiliser 2D, il n'a pas obligé de se prendre la tête, il sait qu'il prendra au minimum 2D, il a déjà vu au moins des dés à 6 faces.
Voilà, et il suffit de dévaliser n'importe quel Monopoly pour pouvoir y jouer. Donc, ou n'importe quel jeu de loi, enfin, c'est aussi un côté très, très simple en fait. 2D, il faut faire plus de 7, point barre, pour réussir une action, standard. De base, les héroïnes ou les héros ont des petits bonus, ils peuvent dépenser leurs points de manga pour utiliser des super pouvoirs, comme la picte qui peut se sortir de n'importe quel complexe paramilitaire et autres. Quoi d'autre, la Québec killeuse qui peut éviter les coups. La manga girl ou boy qui est en symbiose avec son exosquelette Yokohama, doté de lance-roquettes et lance-missiles ou mitrailleuses au choix. Donc ouais, ça permet d'avoir tout un éventail de héros et de possibilités. Donc ça donne un côté vraiment très fun.
Merci, parce qu'effectivement, le truc, c'est ça, c'est soit ils peuvent constituer une équipe complémentaire, soit une équipe de spécialistes, puis après, bon, comme tu disais, leur pouvoir, bon, j'ai essayé de mettre des trucs un petit peu d'humour, par exemple, effectivement, la Québec killeuse peut éviter les coups sans problème, ça s'appelle l'instinct du caribou.
Voilà
bon, ça s'amuser comme ça, puis elle a forcément une tronçonneuse, parce que tous les Québécois, les tronçonneuses chez eux, je ne sais pas, moi, à un moment, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon, j'en essaie de mettre un petit truc comme ça, pour un personnage, et hop, le Panzer, qui Panzerfrau a forcément une boîte de choucroute et un Panzer. Voilà, ça paraît logique.
J'aime bien aussi le CD de Beatles, en fait, des Pictes.
Oui, un peu de poésie de temps en temps.
En parlant de ça, moi, c'est vrai que j'ai vu un peu superficiellement, et j'avoue que j'ai beaucoup aimé les couvertures, personnellement. J'ai vu la première, celle de la Picte. J'ai fait une jeune fille en impair avec, qui, moi, ma foi, ne doit pas tremper dans un endroit très froid, parce que elle n'a pas de quoi se prévenir du froid, avec genre les petites tentacules bleues qui lui disent bonjour par derrière. Enfin, dit comme ça, c'est vrai que ça peut porter à préjudice. Mais personnellement, les couvertures sont très belles, les couleurs sont très bien foutues. Je suis illustrateur moi-même et j'avoue que c'est vraiment du très très bon travail.
Et vous occupez toujours
c'est très sympa, quoi.
Un fanbook à la fin, en tout cas
non,
à la fin du troisième.
On a pu le faire parce que justement, c'est aussi une des raisons de la création du Manga Boys 3 avec une campagne complète. C'est un peu une gère spéciale dédicace au joueur. C'est que en allant à une convention ou par internet ou autre, on découvre qu'il y a des gens qui le jouent et qu'il y a des gens qui aiment bien, il y en a qui ont fait des dessins. Donc du coup, là, on s'est dit, c'est comme ça se fait d'ailleurs dans la fin de certains mangas où il y a des petits dessins comme ça. Je me suis dit, tiens, là, ce serait bien parce que certains nous ont envoyé des dessins ou autres. C'est pas des milliers de personnes, mais du coup, pourquoi pas, si on a une place ou deux dans le bouquin, on le met. Et là c'était pas mal parce qu'en plus, pour Manga Boys 3, donc il y a toujours Kedrick Klim qui, lui, nous fait donc les superbes couvertures. Et là, on a pu travailler en plus avec Philippe Caza pour faire les illustrations intérieures. Et en sachant qu'on ne pensait pas travailler avec ce grand monsieur, mais bon, il disait envoyez toujours des exemplaires de Manga Boy, si ça me plaît, je ferai quelque chose. Et là, paf!
Il l'a fait.
Ouais, il l'a fait, il l'a plutôt bien fait, même.
Il l'a très bien fait en respectant assez bien les descriptions, ouais.
Ouais.
Ses dessins sont plutôt cohérents, c'est très, très bon.
Boulot.
Mais c'est vrai que ça, c'est une des particularités de Casa, c'est qu'il touche vraiment à tout, quoi.
Ah ouais, non, il est vraiment impressionnant.
Littérature, jeu de rôle.
Ce truc qu'il voulait pas faire éventuellement, mais c'est vrai que c'est pas censé, c'est les trucs trop méca. Comme il l'a dit, d'ailleurs, ah oui. Kendrick peut très bien faire des robots et compagnie. Ça l'intéressait moins, il est plus effectivement dans le vivant et dans la chair.
D'accord. Très bien. Eh bien, moi j'avais une question plus côté édition. Manga Boy, ça se vend bien ?
Oh oui, bah alors, ça se vend comme un jeu de rôle francophone dans le milieu hexagonal, etc. Donc les tirages de Manga Boy, si je me rappelle bien, je sais plus exactement pour lesquels, mais c'est entre 1000 et 1500.
D'accord.
D'exemplaires. Donc ça va bien, parce que bon, après, d'un point de vue littéraire, les grosses ventes, bah, généralement, c'est Warhammer et AD&D, même si je me rappelle bien, Pathfinder de chez Black Book doit quand même plutôt bien marcher.
Ça marche plutôt bien aussi.
Ouais, donc là, je connais pas leurs chiffres, mais bon, ça vend. Pour un éditeur associatif comme le Grimoire, ça marche bien, parce que ça, en fait, ça permet de bien compléter à côté la gamme Loup Solitaire, et donc plus les jeux artillerie lourde, plus classique que publie Grimoire, puis Manga Boy, donc dès qu'on a un petit fenêtre d'opportunité, on envoie un Manga Boy dans le lot.
Bah, moi j'aurais encore une question, c'est Manga Boy 4.0.
Bah, on va voir, parce que là aussi c'est un des trucs qui fait aussi, c'est que enfin, pour l'instant Manga Boy 3 est sorti le mois dernier, il y a un truc qui joue toujours, c'est effectivement il faut quand même vendre pour rentabiliser. Donc là, bon, j'ai bien des projets ou autres, mais donc faut jouer. Là, j'attends toujours avec Sébastien. On va réfléchir là-dessus. Donc avec l'éditeur, est-ce qu'on va faire un 3.5 à 4.0 ou est-ce que bon, bah, on n'arrivera pas à vendre parce que c'est une réalité concrète du marché du jeu de rôle. Hein. Si ça coince, ça coince. Donc après, bon, il y a des fois on peut revenir plus tard. C'est le seul truc qui est toujours difficile à promettre, c'est une régularité.
D'accord.
Je pense qu'il y aura autre chose, mais alors quand ? Ça, j'avoue, je sais pas. Ça dépend des envahisseurs.
Très bien. Et tu me disais hors antenne que tu serais peut-être au Festival du Jeu du GERS cet été.
Oui.
Alors, j'ai fait quelques recherches et en fait, je pense qu'il s'agit du RP GERS.
Voilà, c'est ça. Ouais,
à Plaisance du GERS. Donc, c'est la 14e édition. Ça a lieu du 19 au 21 août 2011. Plaisance du GERS, donc festival de jeux, donc de rôle, mais aussi de batailles, de figurines, de jeux informatiques, de jeux de cartes, de sociétés, etc. Et cette année, le thème, c'est mort ou vif.
Mais non, ça correspond bien. voilà, donc je sais pas encore si c'est confirmé, mais bon, donc je descendrai peut-être un petit coup à ce moment-là.
D'accord, et eh bien, tu voyais quelque chose à rajouter, Gabriel ?
Ça me
fera
plaisir.
Ah bah bien sûr.
Mais surtout, l'essentiel, c'est que bon, ceux qui l'ont, ceux qui vont l'avoir, qu'ils en profitent, qu'ils s'amusent, bon, c'est vraiment fait pour ça. Et après, il faut faire qu'ils fassent du jeu de rôle. Parce qu'en général, de toute façon, un rôliste, il ne fait pas qu'un seul jeu de rôle. Voilà. Donc, qu'ils profitent, il y a quand même une belle créativité en France et ailleurs.
C'est vrai qu'il y a une belle créativité en ce moment. En France, il y a beaucoup de bonnes choses qui sortent.
Ah oui, il y a vraiment des bons trucs partout. Que ce soit des petits formats, le sombre John Scipion, par exemple, est très bien. Tout petit truc, c'est excellent. Non, c'est il y a vraiment de quoi faire.
D'accord. Et là, donc, du coup, Manga Boys, c'est bien pour les non-initiés, on va dire. C'est une prise en main facile, et notamment pour les meneurs de jeu débutants aussi, quoi.
C'est clair, il y a tout. Sauf dans le Manga Boys 3, je vous rappelle, il n'y a pas le système de règles, puisque c'est pour ceux qui l'ont déjà. Mais dans tous les autres, ils le prennent et ils peuvent jouer. Après, voilà, il y a un scénario, ça explique. Donc, normalement, ils peuvent... Jusqu'à présent, dans les essais avec des jeunes joueurs ou autres, quand je dis jeunes qui n'ont donc jamais joué... Ça marche très bien, et je précise aussi, parce que souvent on me pose la question, mais les filles aiment jouer à Manga Boys.
Les filles aussi ?
Oulala. Je sais, parce qu'on me dit, c'est les couples, etc. Autant des gens ne se posent pas la question, mais pourquoi est-ce qu'à Playboy, il y a des filles nues dessus ? On me dit, mais pourquoi Manga Boys, c'est des filles dessus, alors ça s'appelle Boys ? Ah, mais bon, c'est temps qu'on mette ça sur
voilà.
Les gars. Prenez un Playboy, personne ne se pose la question, pourquoi il a mis Boy et pas Playgirl ? Donc Manga Boys, ah oui, Boy, on met les filles dessus. Mais ce qui est bien avec justement les univers manga et de SF, c'est que c'est des univers où les personnages féminins ont une réelle consistance. Elles peuvent vraiment jouer, elles ont vraiment un rôle, elles résistent, elles sont des héroïnes. Elles peuvent jouer. C'est beaucoup plus dur de jouer un rôle féminin dans un monde médiéval, ou même dans l'Appel de Toulouse, si c'est dans les années 20, bon, le rôle de la femme est quand même différent. Là, effectivement, une fille peut sans problème jouer une fille dans un univers post-apo, qui plus est manga, parce que les héroïnes de manga, il y en a pléthore.
Voilà, et d'ailleurs, ma première partie de Manga Boys, j'avais deux brésiliennes, et une jouait un diable rouge. Le diable rouge, sa particularité, c'est d'avoir des boys avec lui, donc elle était ravie d'avoir six soldats, six mercenaires à sa botte. Voilà.
Donc quand on peut faire plaisir.
Allez, bah très bien. Merci Gabriel, et on se retrouvera peut-être bientôt ou à la rentrée pour Loup Solitaire.
Oui, bah on se tient au courant, puis moi je vous remercie encore pour cette petite part d'antenne, c'est très gentil à vous.
Eh bah écoute, c'est nous qui te remercions. Bon, à bientôt.
Merci.
Bonne soirée.
Au revoir. Allez, c'est fini pour La Bulle Coincée. Il est déjà 19h. On se laisse on vous laisse en musique avec un petit morceau de Tricky. Et on vous retrouve pas la semaine prochaine, hélas, mais dans deux semaines pour le prochain épisode de La Bulle Coincée. Voilà. On vous rappelle que toutes les émissions peuvent être écoutées gratuitement sur le site de Canal Sud. Vous n'avez qu'à chercher les horaires du mardi de 19h à 20h. Vous trouverez toutes nos émissions depuis le début. Bon, il n'y en a pas énormément, mais il y en a.
Bon, si, quand même, maintenant, ouais. Ça fait quand même un sacré paquet.
Ça commence à faire, hein.
Toutes les semaines, depuis...
Non, mais Canal Sud, les émissions ont 10 ans d'existence en moyenne.
Ouais,
c'est pour
combien
ça.
De pages, ouais, nous, attends
Combien de pages lues, critiquées, sculptées à la loupe,
hein, exactement.
Par des yeux de maître en plus.
Et puis en plus, un jeu de rôle, c'est pas un peu de pages. Hein, plus flou. Ah ouais, et puis en plus, après, faut lire les add-ons, hein, faut lire tout le reste.
Les errata en plus.
Voilà, les scénarios, non mais oh.
Bon, allez, c'est l'heure de vous quitter. Après, ce sera certainement la centrifugeuse. On vous dit à dans 15 jours. Bye bye.
Salut.
Et bonne soirée surtout. Bonne soirée en compagnie de Canal Sud. Check my chromosome. Brand new, you're retro. I already passed you on a 1-2. I've been king to this already. Bullet to the head. Bullet to the head. What you know about Stilkey? What the fuck you deal with? You never represent my attention. You need more than a mic and a mention. Through the scars you see bars. Through the bars you see scars. Results of my race. Brand new, you're retro. Brand new, you're retro. I'm scared, skip a step in case you trip and fall. Thunder picks you up, slaps you on the wall. That's maniacal, I cuff the mind, manacle. Mechanical, I'm super natty. Lavish, lap talk, I walk on by. Exotic spices. If your mouth can't tame the meaning, be careful of the places you're dreaming. And threat of the past, and fear of the future. That's maniacal, I cuff the mind, manacle. Mechanical, I'm super natty. Retro.